Europa Voice numéro 94, et comme à chaque fois, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
94, on s'approche de la centaine et on a deux sujets qui vont être très intéressants cette semaine. On ne peut pas passer à travers l'Ukraine, la situation en Ukraine, et ce que cela veut dire pour l'Union européenne et des décisions point de vue politique et économique. Tout d'abord, Nathanaël, qu'est-ce qu'on sait de cette situation aujourd'hui à plus de 40 jours de combat en Ukraine ?
Ce qu'on sait, en tout cas, ce qu'on peut se demander maintenant, après effectivement plus de 40 jours de combat, c'est l'objectif de Vladimir Poutine, finalement. Parce que, rappelons-nous, quand la guerre avait été déclenchée par le président russe, fin février, on savait que l'idée, c'était pour Poutine de renverser le gouvernement et finalement de mettre fin à ce que lui considérait comme un désir de rejoindre l'OTAN et de couper toute velléité ukrainienne, finalement, de s'émanciper. Et puis là, on a l'impression que même sur le terrain, en fait, les objectifs militaires de Poutine se sont déplacés vers l'Est, et que surtout, Zelensky lui-même... montre aux dirigeants russes que ses velléités de rejoindre l'Alliance Atlantique et même l'Union Européenne se sont un petit peu éloignées. Donc c'est véritablement une question qu'on peut se poser maintenant, encore une fois, après plus de 40 jours de conflit, c'est qu'est-ce que veut véritablement Vladimir Poutine ? Ça, c'est la première chose pour moi, Christophe, qui est importante de se poser comme question. La deuxième chose, en fait, c'est par rapport à la réaction de l'Union Européenne et aux sanctions. On l'a vu, hein, on l'a discuté ensemble plusieurs fois, donc les Européens ont décidé de ne pas agir sur le plan militaire, mais de pratiquer des sanctions économiques avec plusieurs vagues de sanctions. Mais on le voit aussi, hein, finalement, ces sanctions, elles sont limitées. Hein, la Russie ne s'est pas effondrée. Et donc, la question, c'est de savoir si le conflit est amené à durer, quelles sont les autres options pour l'Union européenne pour continuer à pouvoir peser et menacer, finalement, la Russie avant qu'elle ne puisse agir de manière... finalement indéfini et que le conflit s'enlise. Donc finalement, des deux côtés, et du côté russe sur le terrain et du côté européen, on rentre un petit peu dans cette fenêtre d'incertitude à la fois et sur les objectifs et sur les sanctions.
Il faut aussi rappeler qu'il y a sûrement de l'incertitude dans les pays annexes aussi, hein, par rapport à, autour de l'Ukraine. Hein, je pense à la Moldavie, par exemple. Grosse question sur ce qui peut advenir de pays comme la Moldavie, par exemple.
Oui, c'est en fait une crainte aussi de l'Union européenne, et c'est pour ça que les dirigeants européens finalement avaient agi assez rapidement. C'est qu'ils n'avaient pas envie que la Russie, enfin ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, fasse tache d'huile sur d'autres pays limitrophes en Europe de l'Est. Mais aussi, et ça c'est un point je crois qu'il est important de rappeler, c'est que l'Europe a voulu agir vite aussi parce que c'était une question de crédibilité politique. Encore une fois, avec ce qui est en train de se passer et le massacre d'il y a quelques jours à Boutcha et la découverte de ces corps dans les rues et surtout la requalification la qualification pour la première fois par le président ukrainien de génocide par rapport à ce que fait Vladimir Poutine et ce que font ses sbires, c'est aussi un élément important, évidemment d'un point de vue moral, Christophe, mais aussi d'un point de vue de l'Europe. C'est-à-dire que si l'Union européenne, au-delà du fait de savoir s'il y a un objectif politique, elle n'est pas capable de réagir finalement et de prendre des mesures quand on en est à se demander si ce qui est en train de commettre Vladimir Poutine peut être qualifié de génocide, si on parle d'une extermination, comme le prétend Vladimir Zelensky en parlant d'éliminer toute la nation et toutes les nationalités présentes en Ukraine. Alors quel est le rôle de l'Union européenne finalement, Christophe ? Donc à la fois c'est tache d'huile sur les autres pays et ex-satellite de l'URSS, mais également, encore une fois, la crédibilité de l'Union européenne qui est en jeu.
Oui, il faut revenir sur un point également. Angela Merkel, donc l'ancienne chancelière allemande, on a beaucoup parlé d'Angela Merkel au sein d'Europa Voice dans les dernières années, mais Angela Merkel, en 2008, elle avait bloqué l'entrée dans l'OTAN de l'Ukraine. Et aujourd'hui, cette semaine, elle en a reparlé en disant qu'elle maintenait sa décision, elle maintenait les raisons de sa décision. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est valable de revenir sur cette décision, et qu'est-ce que ça aurait pu changer en fait une Ukraine dans l'OTAN en 2008 ?
Alors bon, c'est toujours délicat en fait de faire d'une certaine façon de la politisation et des si, etc. Il faut savoir aussi que par rapport aux critères de rentrée d'adhésion à la fois dans l'OTAN mais surtout dans l'Union européenne, les pays peuvent faire des demandes, mais même avant d'y entrer, en fait, ils doivent respecter un certain nombre de critères pour que les demandes elles-mêmes soient considérées. Si vous voulez, c'est comme une présélection. Et dans ce qu'avait la manière dont avait réagi ou les décisions qui avaient été prises à l'époque par Angela Merkel, c'était simplement pour signifier que par rapport à plein de critères, on en avait parlé dans des épisodes précédents d'Europa Voice, l'état de droit, l'état de l'économie, etc., l'Ukraine n'était pas prête à ce moment-là à adhérer. Et donc, je crois que c'est ça aussi qui est important de comprendre, c'est que effectivement, on en a beaucoup parlé, il y a une procédure accélérée pour la rentrée d'un pays dans l'Union européenne, par exemple, mais il faut qu'il y ait des contreparties. Et d'une certaine façon, les contreparties, elles ne sont pas analysées parce qu'il y a une agression d'un autre pays et que ça vous protégerait. Non, elles sont analysées de manière, j'allais dire, assez neutre. Et il faut juste voir si les critères font que vous puissiez, encore une fois, prétendre, non pas accéder, mais prétendre simplement à ce que votre dossier soit examiné. Donc, je crois que c'est ça l'élément qui est important d'expliquer à nos auditeurs. Et c'est pour ça que Angela Merkel, certainement, maintient sa décision au vu de ce qu'elle considère encore aujourd'hui comme des critères d'adhésion ou de prise en compte du dossier ukrainien. Mais voilà, je crois que c'est important de le préciser. Et puis, d'une certaine manière, quand Zelensky lui-même affirme que maintenant il n'est plus question d'entrer dans l'OTAN et qu'on parle de neutralité, etc., d'une certaine façon, c'est pas non plus de l'eau qui va jouer en sa, enfin, c'est pas quelque chose qui va jouer, pardon, en sa faveur, même si le conflit s'arrête avec la Russie. Et quand le conflit s'arrêtera, parce que ça veut bien dire aussi que finalement sa candidature, elle est conditionnée encore une fois à cette agression extérieure, alors que c'est un peu plus compliqué que ça. Ça veut pas dire que ça ne justifie évidemment en aucun cas une agression comme c'est le cas avec la Russie, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut décorréler la réaction militaire, ce qui est en train de se passer, de l'étude d'un dossier pour adhérer à l'OTAN et encore de manière, j'allais dire, plus approfondie à l'Union européenne.
Et si on parle des sanctions, parce qu'il y a quand même toute une différente vague de sanctions qui ont été mises en place contre la Russie, jusqu'où on peut aller ? Puisque clairement c'est compliqué pour l'Union européenne et certains pays de l'Union européenne de se passer, de se priver du gaz russe et du pétrole russe, mais jusqu'où on peut aller au niveau global de l'Union européenne, sans parler de pays après pays, mais comment et quelles autres décisions peuvent prendre les membres de l'Union européenne?
Alors il y a une phrase, une déclaration assez importante, je pense, du président du Conseil européen, Charles Michel, qui a déclaré cette semaine que tôt ou tard, une décision devrait être prise quant au fait de se passer ou pas du gaz russe. C'est-à-dire que on en est arrivé à un cinquième paquet de sanctions cette semaine, là, donc début avril, notamment un embargo sur les achats de charbon. Donc oui, on est déjà à la cinquième salve de sanctions. Mais le game changer, Christophe, en mauvais français, c'est véritablement renoncer au gaz russe. C'est ça qui fera que, pour l'instant, enfin, c'est ça qui fait que pour l'instant, l'agression russe en Ukraine continue. C'est que les Européens, malgré ces sanctions, et il faut aussi regarder la réalité en face, malgré ces sanctions, les Européens, pour l'instant, continuent d'acheter du gaz russe, et donc, par conséquent, continue de financer, même de manière indirecte, la guerre qui est menée par Vladimir Poutine en Ukraine. Je crois que c'est le nœud gordien de ce problème-là, Christophe. Il y a un chiffre, moi, qui m'a frappé, que j'ai vu dans un article de nos confrères du Monde, c'est que depuis le début du conflit, donc 40 jours, la facture énergétique, ce que payent les pays de l'Union européenne à la Russie, par rapport à ce gaz, le montant est de 35 milliards d'euros. Si on prend ce chiffre et qu'on le compare, Christophe, à la valeur, par exemple, des armes qui ont été livrées à Kiev, et ça, c'est le chef de la diplomatie européenne qui en parle, Joseph Borrell, le montant, il est de 1 milliard. Le rapport est de 1 à 35. Donc, vous voyez, c'est pas simplement une autre sanction parmi d'autres, le gaz russe. c'est la sanction qui va faire que la guerre et les décisions qui vont être prises par Poutine vont avoir une autre tête. Donc pour moi, c'est la réponse, elle est pas carabistouillée, pour reprendre un vocabulaire macronien, elle est très simple. Ce qui va faire la différence, c'est quand les Européens auront décidé, avec ce que ça implique, mais de se priver du gaz russe et d'arrêter de financer la guerre qui est menée par Vladimir Poutine en Ukraine.
Ouais, tout à fait. Quel beau lien avec Emmanuel Macron, parce qu'on va parler de la campagne électorale maintenant en France qui bat son plein. Premier tour des élections ce dimanche, ça arrive. Vous pouvez et vous devez d'ailleurs, si vous êtes votre devoir civique vous tient à cœur, aller voter à peu près partout dans toutes les capitales, les villes. Renseignez-vous localement. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à la campagne électorale. Mais en faisant le lien, Emmanuel Macron, président de l'Union européenne pour l'instant, sur la présidence tournante, le rôle d'Emmanuel Macron dans cette crise en Ukraine, il est primordial, ou est-ce qu'on commence à sentir que ça patine un petit peu quand même avec Poutine ?
Il y a deux niveaux d'analyse dans ça. C'est d'abord que finalement, c'est une parmi d'autres crises qu'Emmanuel Macron a dû gérer depuis le début de son mandat. Que ce soit sur la scène intérieure ou la scène extérieure, il faut le rappeler, mais le mandat d'Emmanuel Macron, peut-être plus que d'autres mandats de président récents, c'est-à-dire que Sarkozy, on se rappelle évidemment de la crise financière globale, François Hollande, on se rappelle des attaques terroristes, mais Emmanuel Macron, depuis le début de son mandat, vraiment, ça a commencé avec les gilets jaunes, on a eu après les violences policières, et vous vous rappelez la loi justement qui interdisait de filmer des policiers en exercice, qui avait amené beaucoup de gens dans la rue. On avait eu aussi l'affaire Benalla et la démission de Gérard Collomb. On avait eu la pandémie, évidemment. Et puis là, on termine avec l'Ukraine.
Oui, la grève des transports, la réforme des retraites. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses aussi.
Mais donc, ce que je veux dire, c'est que par rapport à cette crise, finalement, pour Emmanuel Macron, c'est une crise parmi d'autres à gérer dans son mandat. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça va avoir un effet limité. Ça va avoir un effet limité parce que, rappelons-nous, la popularité d'Emmanuel Macron, elle était quand même tombée à 20% un an après la crise des Gilets jaunes et au niveau de l'affaire Benalla. Donc, j'allais dire, il a pu rouler sa bosse par rapport à ces crises et par rapport à l'image que ça donne de lui auprès de l'opinion. Ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, Christophe, et c'est là où je pense que ça peut avoir un peu plus d'impact, c'est que Emmanuel Macron a quand même réussi pendant son mandat à un petit peu justement contrebalancer certains échecs sur la scène intérieure par des succès sur la scène internationale ou diplomatique. C'est-à-dire finalement avoir réussi à faire plus ou moins plier Donald Trump sur plusieurs dossiers, relancé le moteur européen avec l'Allemagne en prenant encore plus de lead avec la fin de règne d'Angela Merkel, avoir quand même géré de manière plutôt correcte et avec un certain panache la crise du Brexit. Et maintenant en assurant la présidence tournante de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il y avait un petit nuage sur la politique, sur la scène internationale. Et puis, là, cette crise ukrainienne, il faut le dire, c'est la première fois où quand même Emmanuel Macron, surtout au niveau européen, est quand même en difficulté. Et donc, je pense que c'est plus ça. C'est-à-dire que ça va être moins facile pour lui, pas tellement de dire « Oh là là, il y a une crise, je vais pas m'en sortir », mais ça va être moins facile pour lui de rester sur un bilan complètement positif, ou en tout cas majoritairement positif sur la scène internationale. Et je crois que c'est surtout ça, en fait, pour lui, le risque de cette crise ukrainienne, c'est de montrer que malgré toute cette aura, malgré tous les succès à l'international, Emmanuel Macron, il reste quand même impuissant pour faire arrêter un génocide par un président russe aux portes de l'Europe. Donc moi, je crois que c'est ça, vraiment, l'élément qui pourrait lui faire perdre quelques points, en tout cas, qui ternirait un petit peu sur les derniers jours son image de leader et la voie retrouvée de la France.
Et le coup de la vie dans tout ça, parce que ça a été quand même la pierre angulaire de son début de mandat, quand les revendications des Gilets jaunes, c'était globalement autour du coup de la vie. Bon, il s'est passé 5 ans, il y a eu une pandémie, on l'a dit, tout ce qu'il y a eu dans le mandat d'Emmanuel Macron. Mais il semble que le coût de la vie reste toujours un problème quand même en France, partout dans le monde, mais en France également, et que c'est vraiment un sujet qui s'invite dans cette campagne. Donc est-ce qu'aujourd'hui le coût de la vie qui augmente, et notamment le coût du pétrole, et encore plus si le pétrole et le gaz russe vient à manquer parce qu'on a décidé d'arrêter de l'acheter, Est-ce que ça, ça peut vraiment être aussi un problème? Ou est-ce que le temps jouera pour Emmanuel Macron? Il reste 3-4 jours avant le premier tour, 15 jours avant le prochain tour après, et que normalement, ça ne devrait pas impacter sa fin de campagne et la campagne de l'entre-deux-tours.
Alors, sur la question du pétrole, enfin de l'essence, etc., Emmanuel Macron a encore déclaré il n'y a pas longtemps qu'il voulait maintenir une espèce de bouclier sur les prix du gaz et de l'électricité et de maintenir une ristourne à la pompe. Donc bon, ça, en termes d'annonce et d'effet d'annonce, c'est ce qui s'est passé là cette semaine et donc qui va être retenu avant le premier tour de l'élection présidentielle. Il y a deux choses, moi, qui m'interpellent dans votre question. C'est d'abord que, en fait, sur beaucoup d'indices quand même macroéconomiques, je parle notamment en augmentation du produit intérieur brut et en termes de chiffre de chômage, où on est à 7,4%, si je ne m'abuse, c'est-à-dire des chiffres qu'on n'avait pas retrouvés depuis quasiment 15 ans. Hein. Rappelez-vous, hein, dans les dernières années politiques, on était autour de la barre des 10%. Là on est sur 7,4% selon les derniers chiffres. Donc, sur ces grandes indications macroéconomiques, c'est vrai que le bilan d'Emmanuel Macron paraît assez positif. Et puis, il y avait un article qui est paru chez nos confrères du Guardian, si je ne me trompe pas, sur « Il fait bon vivre en France, ce Emmanuel Macron ». Le problème, Christophe, effectivement, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on a beau avoir des indices macroéconomiques qui paraissent dans le vert positif, le ressenti de la population est autant, si ce n'est plus important. Et effectivement, c'est ce qui ressort d'ailleurs des derniers débats et des dernières attaques des candidats adverses, c'est que l'impression qui est donnée ou les remontrances qui sont faites, c'est que le coût de la vie est toujours aussi cher, c'est qu'il y a une paupérisation de plein de parties de la population, les étudiants, enfin les étudiants, les retraités, etc. Il y a encore tout ce débat sur la réforme des retraites qui est une espèce de marronnier politique maintenant depuis plusieurs décennies en France. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que Emmanuel Macron n'a pas réussi à résoudre. Et encore une fois, et ce, malgré l'apparence de bons résultats macroéconomiques. Je dirais le deuxième élément, Christophe, à ça, c'est que malgré ça, finalement, les réponses ne semblent pas non plus être apportées par les camps adverses. Et je ne sais pas si on va en parler dans cette émission, dans ce numéro d'Europa Voice, mais d'ailleurs, les sondages sont assez éloquents sur ça. C'est-à-dire que malgré ce ressenti-là, Emmanuel Macron, même s'il est talonné par Marine Le Pen, on reste quand même à 2 jours du premier tour, 3 jours du premier tour, à un écart de 5-6 points. Donc Emmanuel Macron, encore une fois, malgré ces critiques-là, et en tenant compte ces sondages-là, pour l'instant, fait quand même la course en tête.
Mais justement, en fait, c'est intéressant parce que le débat à avoir sur ces élections, c'est, à mon avis, il y a plusieurs questions dans ces élections. Mais on va d'abord s'intéresser à ça. Emmanuel Macron a dynamité le format, le schéma politique lors des dernières élections présidentielles, il y a 5 ans. Aujourd'hui, le modèle restera le même. On voit très bien que on a Emmanuel Macron en tête. Il est dans un sandwich des extrêmes, à droite et à gauche. C'était un peu déjà le cas il y a 5 ans. Est-ce qu'on peut dire que la droite traditionnelle et la gauche traditionnelle sont aujourd'hui mortes en France ?
Emmanuel Macron, il y a 5 ans, et ça, je crois que tout le monde s'accorde à le dire, il a mis fin au système bipartisan classique. Il a dynamité ce système, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire qu'on a on n'a plus une gauche qui s'oppose à une droite, avec parfois des surprises, avec une extrême droite qui arrive à accéder au second tour. Emmanuel Macron a vraiment dynamité ce système-là et a ringardisé les partis de gouvernement classiques et de gauche et de droite. Ça, c'est sûr, Christophe. Et par contre, ce qu'il n'a pas réussi à dynamiter, c'est une sorte de bipartisanisme ou d'opposition entre deux partis, mais qui se sont déplacés sur un autre terrain. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus la gauche et c'est plus la droite, mais c'est, comme vous l'avez dit, c'est et l'extrême droite et l'extrême gauche qui talonnent Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron, il est pris dans ce sandwich-là, comme vous l'avez dit. Donc, finalement, le problème, c'est qu'il ne va pas pouvoir faire ce coup-là à chaque fois. Hein, il ne va pas pouvoir faire à chaque fois le coup « je suis ni de droite ni de gauche », parce que là, il n'a plus en face de lui des partis ringardisés classiques, mais parce qu'il a des extrêmes qui, par définition, portent en eux des programmes de contestation. Et pour moi, c'est ça le véritable, j'allais dire, piège, qui va pas forcément se refermer sur Emmanuel Macron au moment des présidentielles, mais qui, petit à petit, va faire qu'on a des extrêmes qui, de plus en plus, se rapprochent du pouvoir. Il faut aussi le rappeler pour nos auditeurs d'SBS, on passe quand même Front National et des partis d'extrême droite avec des ratios de 80-20 en 2002, puis des ratios de 60-40 12 ans plus tard. Et là, dans les simulations de second tour, on a eu pour la première fois cette semaine Marine Le Pen qui gagnait un second tour face à Emmanuel Macron. Donc ça veut dire aussi le danger pour Emmanuel Macron, c'est que finalement c'était un one-shot qu'il a fait il y a 5 ans en ringardisant ces deux partis qui, précisons-le, depuis n'ont pas réussi à remonter. Hein. C'est terriblement vrai pour la gauche, mais d'une certaine façon, quand on a une droite à 8% arrivant en cinquième position dans les sondages, ça veut dire que la droite n'a pas non plus réussi à renouveler son corpus. Mais le problème, encore une fois, c'est qu'Emmanuel Macron ne va pas pouvoir nous refaire le coup de 2017 ad vitam aeternam.
Ouais, et il y a surtout une autre statistique qui est intéressante. Marine Le Pen, en 2012, elle fait 17%. En 2017, elle fait 21%. Et là, l'extrême droite, puisqu'il faut additionner maintenant un certain Éric Zemmour, on est à presque plus de 30% au premier tour. Et ça, c'est un chiffre qui est flagrant.
Pour moi, c'est deux choses. D'abord, effectivement, que les idées, là je ne parle même pas des partis, mais c'est-à-dire que les idées d'extrême droite qui sont portées par des candidats, elles augmentent de plus en plus et elles sont affirmées de plus en plus par des candidats et donc par les populations qui les portent. Ça, c'est le premier élément. C'est-à-dire que finalement, elles ne sont plus des idées tellement extrêmes que ça. Hein. C'est-à-dire que c'est des idées qui deviennent mainstream. Ça, c'est le premier élément, Christophe, parce qu'on a Marine Le Pen, parce qu'on a Éric Zemmour, parce qu'on a une extrême droite à plus de 30%, parce qu'on a une extrême gauche à 17% avec Mélenchon en troisième position, mais qui arrive quasiment au 25% si on additionne Philippe Poutou, Fabien Roussel et Nathalie Arthaud. Donc ça, c'est le premier élément. Mais surtout, pour moi, le deuxième élément en termes de sociologie politique qui est extrêmement important, c'est qu'en fait, c'est aussi la première fois dans une élection, et ce qui explique le score élevé de Marine Le Pen dans le cadre d'un second tour, pour la première fois, l'extrême droite a une réserve de voix pour le second tour. Ce qui faisait avant que l'extrême droite, Christophe, n'accédait pas à la présidence, c'est qu'en fait, finalement, la plupart des personnes qui voulaient voter extrême droite le faisaient au premier tour, et qu'après, on n'avait pas de réserve, alors que la droite traditionnelle ou Macron, surtout la droite, avait les réserves, le barrage républicain, la gauche, les centristes, etc. Là, Marine Le Pen, elle a, ça ne veut pas dire qu'il y a une conversion automatique de 100%, mais elle a une réserve de voix énorme avec un Éric Zemmour à 10%, avec un Nicolas Dupont-Aignan qui va quand même fournir quelques voix au second tour, avec d'autres extrêmes aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a une porosité aussi entre les extrêmes. Hein, quand on voit les simulations de vote, le vote Mélenchon ne se déplace pas intégralement, soit sur une abstention, soit sur un vote pour un candidat comme Emmanuel Macron. Il y a une partie aussi de ce vote-là qui va dans un autre extrême. Et donc, ce qui est dangereux, ce qui est en fait capable de créer une dynamique, parce que c'est ce qu'on cherche entre le premier et le deuxième tour, c'est rassembler pour créer une dynamique grâce aux réserves de voix. Ben là, pour la première fois, l'extrême droite a une vraie réserve de voix pour le second tour.
Absolument, et ce sera une affaire à suivre, puisque le premier tour de l'élection, comme je le disais, c'est dimanche, un peu partout dans le monde. Hein. On votera en Australie, d'ailleurs, avant de voter en France. Donc dimanche, voilà. Merci Nathanaël.
Merci Christophe, bon vote.
Merci, bon vote à tous.